Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
En deuxième partie des Héros Anonymes, nous recevons un héros de l'anonyme, Julien Montreuil. Bonjour.
Bonjour.
Je dis un héros parce que vous êtes au quotidien, c'est clair, avec les personnes que vous aidez, mais en tant que directeur général, vous connaissez très bien parce que vous avez débuté votre carrière à bord même de la caravane l'anonyme.
Oui, effectivement, mais ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le milieu communautaire, mais donc à l'anonyme depuis 17 ans. Et oui, j'ai été embauché là, à la base comme intervenant à bord du véhicule mobile. Donc, devoir apprendre à conduire ce véhicule-là. J'avais pas de permis de conduire à l'époque. Et là, je conduisais un véhicule de 33 pieds de long. C'était quelque chose. Donc, on apprend rapidement. Mais aussi de travailler de soir, de nuit avec les populations qu'on rencontre, là, effectivement.
OK. Donc, on parle des populations qu'on rencontre. On se situe où, là, pour l'anonyme?
L'anonyme offre différents types d'interventions. Donc, si très rapidement, on pourrait parler, on parle d'éducation à la sexualité. Donc, on a un programme d'éducation à la sexualité avec des sexologues dans différents milieux qui, justement, vont animer des ateliers liés à deux thèmes principaux, soit la santé sexuelle et la prévention de l'exploitation sexuelle. On a aussi un programme en sécurité urbaine, donc on a différents intervenants et intervenantes qui animent des ateliers, mais qui sont aussi sur le terrain, sous différents thèmes liés à ça, notamment la cohabitation sociale. On est propriétaire d'une maison de chambre, mais on a aussi un programme d'intervention de proximité, donc un autobus et un service de consommation supervisé. Donc dans l'autobus, on travaille de nuit et de soir. Le soir, avec une population plus jeunesse, une population qui est issue de l'immigration, une population qui a des personnes qui sont dans des quartiers, je dirais, plus excentrés. Donc, des quartiers plus périphériques au centre de Montréal. Donc, vraiment, des jeunes ou des moins jeunes qui sont plus organisés. Donc, ils vont venir, entre autres, pour venir chercher des préservatifs, pouvoir discuter aussi, justement, là, d'éducation à la sexualité et tout ça. Et la nuit, ben là, on est plus avec une population qui est dans des situations de désaffiliation, je dirais. Donc, situation d'itinérance, des enjeux de dépendance, santé mentale, santé physique.
C'est un terme que moi, je suis... J'apprends là, depuis quelques mois le terme « désaffiliation sociale ». Il remplace quel terme qu'on utilisait?
Oui, je sais, parce que souvent on me l'a dit aussi, ce terme-là, Julien, il est plus dans ton jargon à toi. Là. Tu sais, là, reviens, parle-nous de ce que tu veux dire par désaffiliation. Pour moi, c'est parce qu'on parle souvent d'être en marginalité, d'être en marge finalement, ou d'être dans une certaine vulnérabilité. Puis à un moment donné, je trouve qu'il y a une forme de... peut-être de victimisation, même de stigmatisation des gens à ce moment-là. Puis là, l'idée, c'est de trouver un terme qui corresponde finalement. Quand on parle de désaffiliation, ben c'est ça, c'est que dans le fond, ce qu'est la société pour ces personnes-là, ben ça leur correspond beaucoup moins finalement. Donc, c'est un peu comme ça que moi je le perçois. C'est-à-dire que souvent, par rapport, mettons, au réseau de la santé, ces personnes-là fréquentent plus ou fréquentent moins le réseau de la santé, vont moins à l'hôpital, vont moins. Parce qu'ils ont perçu, ils ont ressenti qu'ils étaient moins bien servis, qu'ils étaient moins bien accueillis, qu'ils étaient bon, etc., etc. Vont plus souvent, on parle de désaffiliation, ces personnes-là ont plus, mettons, de carte d'identité, par exemple. Donc, sont plus. Donc, il y a comme plusieurs éléments qui peuvent, je dirais. Créer ou en tout cas définir cette désaffiliation-là. Donc, je pense que ça explique finalement dans quelle situation les personnes sont et sans nécessairement les mettre dans une situation de victimisation ou de stigmatisation.
Bien, je me posais justement la question. Parfois, il y a des jeunes qui sont sur le bord de la rue avec un chien, ils vont quêter. Et des fois, je regarde leur air et je me dis... Il y a une certaine partie de lui qui a l'air d'être heureux de sa liberté puis de faire son... aller chercher ce qu'il a besoin pour manger à tous les jours. Qu'est-ce qui est de la projection de ma part là-dedans puis qu'est-ce qui est vrai?
Je suis d'accord à dire que on a toujours le choix. Après ça, c'est quelles étaient nos options ou en tout cas, qu'est-ce qu'on perçoit comme étant nos options à un moment
c'est
de faire
nuance,
un choix.
C'est une bonne nuance, la perception des possibles.
Exactement. Ouais. Et c'est là, à mon avis, que parfois, on peut avoir l'impression que la personne, une personne qu'on peut rencontrer, elle est bien, elle est heureuse, ou en tout cas, elle semble avoir on voit certains éléments, on perçoit certains éléments qui nous amènent à dire, cette personne-là, finalement, elle a l'air bien dans le style de vie qu'elle vit. Tu sais, jusqu'à un certain point, peut-être, puis en même temps, ou peut-être pas, mais en même temps, l'humain, ce qui a le plus peur, à mon sens, à moi, c'est l'inconnu. Et à un moment donné, on s'habitue à un style de vie X, peu importe. Puis chaque être humain, on est comme ça. Puis ensuite de ça, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve à être habitué puis à pas vouloir nécessairement... Faire des changements, c'est vraiment pas évident pour n'importe quel être humain dans n'importe quelle situation. Même si de l'extérieur, on pourrait percevoir vis-à-vis des personnes qui sont en situation de désaffiliation, par exemple, ce sont des itinérances et tout ça, qui dorment dans des campements, hein, qui... Bon, on pourrait se dire, mais ça n'a pas d'allure, c'est pas une vie, tout ça. Mais les personnes s'habituent à ça. Puis je pense que ça vient aussi du fait que, ben, comme on parlait tantôt d'offrir des possibilités aux personnes, je pense que ça vient du fait qu'on... Ben, on n'offre pas suffisamment, ou en tout cas comme société, on a de la difficulté à offrir des possibilités qui sont adaptées aux personnes et qui pourraient répondre justement à leurs besoins et ils pourraient percevoir à ce moment-là qu'ils sont, ben, qu'ils ont des choix différents.
Mmh. Puis dans les faits, ce que vous dites, ça vaut pour tout le monde aussi. Il y a des gens qui sont installés dans un emploi qu'on pense, un emploi de rêve, qui ne sont pas plus heureux non plus, qui ne se sentent pas nécessairement...
Ben absolument. Ouais. On est dans ce changement-là, la difficulté de faire des changements. Je pense que c'est vraiment, c'est transversal, là, c'est l'être
c'est
humain
ça.
En général. Ouais, ouais.
Quelqu'un pourrait sortir de la rue, puis pourrait justement trouver ça difficile de rester à un même endroit, puis d'aller travailler à la même place à tous les jours, ça pourrait être difficile.
Je vous disais tantôt rapidement là, que l'année, on a à la fond une maison de chambre.
Ouais.
Donc pour des personnes, on a des situations où, si on veut le résumer, si ces personnes-là n'étaient pas dans cette maison de chambre-là, elles seraient à la rue et c'est là qu'elles étaient auparavant. Puis quand je parle à la rue, c'est qu'ils n'ont pas ou ils ne perçoivent pas avoir accès à de l'hébergement, à d'autres types de logements, pour toutes sortes de raisons. Puis souvent, la personne, elle arrive, puis ça fait des années qu'elle est dans la rue, bien, elle arrive dans une chambre, dans une petite chambre et tout ça, puis elle n'est pas bien. C'est difficile de s'adapter, justement. Puis là, on se dit, ben voyons donc, là, elle a un endroit au chaud, c'est sûr que c'est mieux.
Parce qu'on
ça.
Pense ça avec nos yeux à nous, notre réalité.
Absolument,
à nous.
C'est notre perception à nous, c'est que c'est nos repères à nous, c'est nos référents à nous. Mais la personne, ses référents, c'est pas ça, tu sais.
Là, t'es cadré, t'as quatre murs.
Ça peut être très. Ça peut être même insécurisant pour les personnes, tu sais. Donc, c'est vraiment. Je pense que si à l'anonyme, on croit toujours, quand on parle de réduction des méfaits, on parle d'une approche qui est très étapiste.
Ouais.
Je crois qu'il faut y aller, c'est des petits changements un par un. Puis encore une fois, vous pourriez aussi me dire que c'est ben, l'être humain, c'est pas mal comme ça en général. Puis je vous dirais, ben oui, je suis d'accord.
et donc, c'est pas tout le monde qui décide de vouloir aller dans un des logements. Il y a des gens pour qui ça répondra pas à un besoin, ils veulent pas y aller. Ben, à quel moment ils disent, oui, j'aimerais ça, moi, avoir accès à cette chambre-là?
Je pense que là, une autre chose qui, encore une fois, qui est probablement que tous les êtres humains ou tous les êtres humains voudraient avoir, c'est vraiment, dans le fond, améliorer sa qualité de vie. Améliorer, selon sa perception, encore une fois, ses conditions de vie. Donc, je pense que les gens, entre autres les gens qu'on rencontre dans des tentes et tout ça, là, qui campent à Montréal, puis qui disent, ben, tu sais, moi, si on pouvait m'offrir un logement là, qui ferait du bon sens, puis tout ça, moi, je voudrais y aller, mais j'en ai pas, j'en trouve pas, je pourrais de m'en payer un, puis tout ça, tu sais. Après ça, ben qualifions c'est quoi un logement qui a du bon sens, tu sais, ça c'est très large, puis c'est encore une fois, c'est unique à chaque, ça peut être, en tout cas, unique à chaque personne, finalement. Donc, c'est vraiment, je pense que, tu sais, depuis une trentaine d'années, on a énormément réduit le nombre de logements, puis le nombre qu'on construit au Québec, mais partout au Canada. Et
on sait qu'on est dans une crise du logement. Là. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui se retrouvent à la rue, justement?
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oui, parce que ça, c'est un effet domino. Les logements sont plus chers, donc des personnes qui étaient peut-être dans des situations de grande précarité, ben là, se retrouvent dans une situation d'itinérance. Celles qui étaient dans une situation de précarité se retrouvent en grande précarité. Donc, il y a une espèce d'effet domino qui amène, justement, oui, plus d'itinérance. D'ailleurs, si on compare la période pré-pandémique et post-pandémique, là, on a une augmentation à Montréal de 50% du nombre de personnes en situation d'itinérance. On parle d'itinérance chronique. Là. Donc, de dire, je dors dans la rue, puis des fois dans des refuges et tout ça, mais que j'ai pas, c'est pas des épisodiques où t'es, mettons, un mois dans la rue, puis là, finalement, t'es dans une chambre ou un logement pendant plusieurs mois et tout ça. Donc, c'est vraiment dans quelque chose de chronique. On parle vraiment d'une augmentation importante. Puis c'est entre autres dû à ça, effectivement, au coût de la vie, au coût des logements. Là,
ouais. Bien, on a vu des tentes apparaître là, qui n'étaient pas là avant. Puis c'est sûr que quand on voyage un peu, on voit qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des quartiers complets. Je pense à San Francisco, entre autres, c'est des quartiers complets. Un quartier complet où il y a vraiment beaucoup... d'itinérance et de temps, ça serait dommage que ça se rende à ce point-là.
Je pense que effectivement, puis tu sais, l'automne dernier, j'étais à Vancouver, puis aussi là, quand on parle
de Hastings, tout à fait, tout à fait.
À Los Angeles aussi là, des quartiers, un quartier là qui est Skid Row là, justement là où vraiment il y a énormément là, de tanks qui sont installés là. Je pense qu'encore une fois, puis je reviens à mon quand je parlais de logement tantôt. Donc en 95, il y a eu le ministre libéral fédéral, M. Axworthy, qui a vraiment comme coupé, il a sabré dans le logement social, le financement au logement social. Et là, ça a fait effet boule de neige sur le provincial, sur le municipal. Donc, cette incapacité-là de continuer à offrir du logement communautaire, social ou en tout cas à moindre coût aux personnes, différents aussi modèles, différents types de logements. T'sais. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que oui, on se retrouve dans une situation où les personnes, ben ils se disent mon meilleur choix, c'est de me mettre une tente au coin de Notre-Dame puis Frontenac avec tous les enjeux de sécurité, de salubrité, de peu importe. Puis ça, dans la panoplie, et je mets des guillemets, là, la panoplie de choix que je vois pour me loger, ça, c'est mon meilleur choix. Puis je me dis, si on se dit ça, si une personne se dit ça, il me semble qu'à quelque part, on manque notre coup là, comme société là, pour justement offrir des solutions de logement.
Absolument. Et l'une des solutions que vous avez, c'est combien de chambres?
Donc, notre maison de chambre, oui, c'est 14 chambres, dont 2 chambres doubles. C'est vraiment une idée de... c'est toujours un projet de quartier. Et l'idée, c'est qu'on identifiait des personnes que soit nos équipes rencontraient la nuit, entre autres, absolument, ou d'autres, des équipes d'intervention dans d'autres groupes partenaires, puis ce qu'on disait, c'est qu'on était incapable de les référer. Peu importe. Même dans des hébergements d'urgence, c'était difficile parce que ces personnes-là consomment des substances, parce qu'ils ont des enjeux de santé mentale, donc une difficulté à vivre en groupe et tout ça. Incapacité de se trouver un logement, incapacité de les accompagner vers justement du logement social, du logement communautaire, des programmes de réinsertion, comme on appelle. Donc, ça fonctionnait pas avec ces personnes-là.
Je comprends même que les personnes en couple aussi, c'est difficile dans un hébergement parce que c'est genré ou...
Absolument, tu sais, donc des couples dits hétérosexuels ou des couples hommes et femmes, mais ce que ça fait, c'est qu'ils se retrouvent, ils doivent se séparer à chaque soir. Il y en a qui trouvent ça difficile, se retrouvent, vont pas dans les hébergements où ils n'ont pas accès, ou en tout cas, la perception de pas y avoir accès. Donc, on se retrouve dans une situation où les personnes, il fallait faire quelque chose pour nous, pour être en mesure de répondre à ce besoin-là. Donc, oui, 14 chambres, 16 places parce qu'on a 2 chambres doubles, entre autres pour répondre à ce besoin-là, donc d'avoir des couples. C'est modeste, ce sont de petites chambres, mais je pense qu'on essaie de répondre aux besoins de logement des personnes qui sont les plus difficilement logeables, là, finalement.
Parliez un peu plus tôt des enjeux de cohabitation sociale. Je lisais dans le dossier de recherche que vous avez vraiment pris ça au sérieux, là, vous avez fait du porte-à-porte avant de transformer l'endroit en maison de chambre?
Je pense qu'on fait souvent, puis je veux dire, comme société, on fait souvent l'erreur de... on identifie des besoins, puis là, on arrive avec la cavalerie, je vais le dire comme ça. Hein? Là, on met plein de trucs en place. Puis un des exemples, pendant la pandémie, il y a eu plein d'exemples comme ça, parce qu'il fallait réagir rapidement, parce qu'il y avait plein d'enjeux qui arrivaient. Vous avez sûrement entendu parler là, d'ouverture, là, il y a l'hôtel Royal Versailles qui a été transformé en refuge pour personnes en situation d'itinérance, juste en face de la place Versailles, sur la rue Sherbrooke. Donc, dans un quartier qui est presque un quartier de banlieue, finalement, un quartier qui était pas du tout très peu en lien avec l'itinérance et tout ça. Et là, il y avait 150 personnes en situation d'itinérance qui s'en vont là. Il y avait des besoins à ce niveau-là. Il fallait trouver des endroits, puis il fallait que les personnes aient des endroits pour pouvoir, pas mourir de froid, finalement, c'était ça. Mais d'un autre côté, on n'a pas pris le temps de faire cette préparation-là, d'aller rencontrer les riverains et les riveraines autour, d'aller leur en parler, de faire des soirées d'information. Oui, c'est confrontant, puis oui, c'est pas évident, puis il y aura toujours des personnes qui seront pas d'accord, puis il y a des raisons pour lesquelles elles sont pas d'accord, puis jusqu'à un certain point, on peut les comprendre. Mais je pense que d'arriver puis de faire ce travail-là en amont, ce porte-à-porte-là qui peut être fait, ces soirées d'information-là qui peuvent être faites, développer des canaux de communication directs entre les riverains et riveraines et les personnes qui s'occupent de ces lieux-là pour s'assurer justement qu'on a, une bonne communication, mais qu'on est en mesure de pouvoir réagir rapidement afin d'assurer la meilleure cohabitation sociale pour toutes et tous.
C'est quoi la peur des gens? C'est surtout les gens qui se piquent, entre autres, les seringues, que les enfants... tombe sur les seringues ou...
Ça fait partie des enjeux. Effectivement, il y a un enjeu de sentiment de sécurité. On fait beaucoup, nous, la distinction entre la sécurité et le sentiment de sécurité. Ouais. Donc, qui peut être bien différent, qui est beaucoup plus subjectif. Hein. Ouais, même endroit, deux personnes, même endroit, même heure.
Vous le disiez, là, on est dans un endroit avec quatre... quatre murs, on ne se sent pas en sécurité.
Et voilà, tout à fait. Ouais. On est là-dedans. Ben, dans le fond, les personnes... l'idée, oui, il y a les enjeux de sentiment de sécurité. Oui, le matériel de consommation en est un. Oui, des personnes dans des situations de désorganisation, par exemple, dans l'espace public, ça peut inquiéter des gens.
Qui vont crier ou qui...
Ouais.
qui...
Ça peut inquiéter. Mais moi, les plus grands... Le plus grand nombre d'appels ou de soucis que les riverains et riveraines, le voisinage, mettons, a... C'est vraiment de se dire, hey, on voit des personnes, ils n'ont pas de l'air à bien aller, est-ce que vous faites quelque chose?
Ouais.
Est-ce qu'il se passe quelque chose? Là, vous les avez mis dans cette maison de chambre-là, par exemple, c'est un peu ce qu'on nous dit. Donc, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils ont des services? Mm. Est-ce qu'on peut, tu sais...
Et y a une espèce, je suis contente d'entendre ça. Oui. Il y a un petit peu d'empathie là-dedans. On n'est pas dans le dans ma cour, comme
puis,
on dit.
Y a, ouais. Des fois, c'est une empathie qui est aussi... je dirais utilitaire, dans le sens que je me montre empathique, mais en même temps, je veux aussi ma tranquillité, ce qui est correct, je le comprends. Mm-hmm. Et d'un autre côté, il y a aussi de l'empathie qui est réelle, authentique là-dedans. Et on a des gens qui disent « Moi, je veux rien savoir, je veux que les personnes... C'est mon droit, je paye mes taxes et tout ça, donc moi, je veux la tranquillité chez nous. » Donc, on a un mix comme ça, mais je dirais que des personnes qui sont empathiques, des personnes qui se soucient, sont la majorité des personnes qui vont nous contacter.
Julien, on fait une courte pause et ensuite peut-être parler davantage du côté prévention, de la sexualité. Vous agissez beaucoup à ce niveau-là. On l'a peut-être moins entendu jusqu'à présent. On revient dans quelques instants.
Parfait.
De retour au Héros anonymes pour notre dernier bloc. Et justement, on parle avec le directeur général de l'anonyme, Julien Montreuil. Vous l'avez entendu en première partie, c'est un homme passionné par le métier qu'il fait. Ça fait du bien de voir des gens qui prennent leur travail à cœur comme ça. Y a un volet qu'on n'a pas encore abordé, là. C'est tout le côté, vous parliez d'ateliers, d'éducation à la sexualité avec des sexologues. Ça s'adresse à qui, puis ça se déroule comment et où?
L'anonyme existe depuis 35 ans, puis l'idée, c'était vraiment d'aller directement auprès des personnes et tout ça. Puis on s'est dit, est-ce qu'on pourrait travailler un petit peu plus en amont, finalement? Mm-hmm. Donc, d'être un petit peu avant que des actions un peu plus... ou des comportements un peu plus à risque arrivent. Est-ce qu'on peut justement...
Comment les prévenir?
Exactement. Ouais. Et donc, l'idée d'avoir des ateliers d'éducation à la sexualité, donc on fait ces actions-là depuis 18
Juste
ans
faire
maintenant.
Une précision,
oui.
C'est que... On disait d'entrée de jeu, l'idée est simple qu'il ne meure pas, c'est qu'il y a... Parce que les ITSS, il y a deux S dans ITSS, c'est par le sang aussi que ça s'attrape, et donc souvent, c'est par des seringues souillées.
Mmh, tout à fait. Mais quand on dit que souvent, notre objectif, c'est que les gens ne meurent pas, en ce moment, c'est encore plus vrai avec la crise des surdoses ou la crise des substances contaminées qui frappe l'Amérique du Nord, l'Occident, je dirais. À Montréal, c'est un fait aussi. Mais effectivement... plusieurs groupes sont nés, entre autres, en lien avec l'épidémie du VIH et tout ça. Et donc, on s'entend, là, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là, mais on croit que justement de prévenir, de travailler en amont au niveau de la prévention des ITSS, pour nous, c'était ça allait de soi là, dans le travail qu'on avait à faire. Donc, il y a 18 ans, on a eu notre premier projet d'éducation à la sexualité qui, avec le temps, a fait des petits, on va le dire comme ça, sans mauvais jeu de mots. Et...
ben là, on parlait de condoms.
ça, voilà. Et donc aujourd'hui, je dirais qu'il se matérialise ou il se concrétise en deux grands thèmes, finalement. Donc, la santé sexuelle, proprement dit. Donc, oui, la prévention des ITSS. Oui, l'utilisation... Donc, les relations amoureuses, les relations intimes, cette espèce de... Donc, parce que... Avoir des relations sexuelles, c'est une chose, mais c'est des êtres humains qui se rencontrent et comment toutes les discussions, je dirais, par rapport à ça. Et aussi tout ce qui est en lien avec l'exploitation sexuelle. Donc, c'est un autre thème qui est vraiment utilisé. Puis là, c'est le grand thème de l'exploitation sexuelle ou des violences sexuelles, on pourrait le dire. Mais tu sais, on peut parler de consentement, on parle d'agression sexuelle, on parle de etc. Puis oui, aller jusqu'à l'exploitation sexuelle.
Ben, si vous avez vu, cher auditeur, la série Fugueuse, entre autres, on voit le phénomène, finalement, qui peut aller jusqu'à la prostitution forcée et autres.
Mm-hmm. Mais c'est sûr que la série Fugueuse, c'est une série de fiction, fait que c'est sûr que ça donne un je dirais pas, c'est pas une caricature, mais je dirais qu'on a comme grossi les trucs et tout ça pour vraiment mettre l'accent sur les différents enjeux. Mais on peut dire que il y a certains éléments là-dedans qui amènent le concept de, je dirais, général est pas mal celui-là. Donc, c'est espèce de tous les éléments de manipulation, les éléments de les jeunes, souvent les jeunes femmes en situation de grande vulnérabilité qui sont susceptibles de d'accrocher finalement à cette manipulation-là et tout ça. Donc ça existe, mais des fois c'est plus ça nous paraît ben gros dans cette série-là, là. C'est tellement évident pour tout le monde. Voyons donc comment ça que ça arrive et tout ça.
Non, mais ça peut être pernicieux, la
absolument, mais parfois c'est sournois. Et c'est beaucoup plus des voix sournois et tout ça, puis ça va dans des gestes du quotidien, des couples où dans le fond une personne dans le couple se sent obligée d'avoir des relations sexuelles lorsque l'autre veut. Ça peut aller dans des... On travaille aussi avec des personnes qui sont dans le... voyons, j'ai de la misère, mais qui sont soit TDAH, soit dans le trouble du spectre de l'autisme. Donc, à ce moment-là, l'idée des personnes qui sont... qui ont aussi des vulnérabilités et qui, les messages, dans le fond, qui sont, je dirais... qui sont utilisés dans nos ateliers, ne vont pas nécessairement percoler au niveau de leur compréhension et tout ça. Donc, on a aussi à adapter notre travail pour pouvoir répondre, parce que c'est des populations qui sont dans des neurodivergents et neurodivergentes. Voilà, c'est le terme que je cherchais depuis tantôt. Donc, à ce moment-là, ces personnes-là, il faut qu'elles comprennent bien les messages qu'on envoie, et elles sont dans des situations encore plus grandes de vulnérabilité. Les chances d'être victime d'une agression sexuelle, les possibilités, mais on s'entend. Donc, les risques d'être victime d'une agression sexuelle sont beaucoup plus grandes lorsqu'on est dans une situation, lorsqu'on est une personne neurodivergente que neurotypique. Donc,
de ne pas être capable d'interpréter certains risques ou de lire certaines situations.
Absolument. Et de normaliser des situations qui sont, ça n'a pas d'allure, tu fais abuser finalement, ou tu es dans une relation où de pouvoir, on a du pouvoir sur toi, mais les gens s'en rendent moins compte. On en voit des situations comme ça régulièrement. Donc, dans le fond, concrètement, on donne, entre autres, des ateliers dans de multiples milieux, des milieux scolaires, énormément de milieux scolaires. Donc,
on est vraiment dans la prévention, on est vraiment en amont.
Directement. Ouais. Des milieux communautaires comme des maisons de jeunes, entre autres, des organismes de réinsertion socio-professionnelle, par exemple. Donc, ce type d'endroits-là qui reçoivent ou qui accompagnent des jeunes qui sont susceptibles, justement, d'avoir des comportements à risque, entre autres. On va aussi dans des milieux institutionnels également. Et on a tout un pan aussi d'intervention individuelle, justement, au niveau de l'exploitation sexuelle. Donc là, vraiment, on a deux projets donc qui sont vraiment, entre autres, liés avec les centres jeunesse, entre autres.
Oui.
Donc, pour pouvoir faire le lien, l'idée, dans le fond, c'est de se dire, il y a des jeunes, souvent des jeunes filles, qui ont été signalées à la DPJ, mais se sauvent, fuguent, pour faire le lien avec l'émission dont on parlait. Et là, à ce moment-là, même la DPJ n'est pas capable de les retrouver et tout ça. Donc, ils sont dans des situations de très grande vulnérabilité à ce moment-là. Donc, d'offrir finalement une espèce d'alternative qui permet d'offrir une espèce de filet de sécurité à ces jeunes filles-là, un lien finalement qu'elles peuvent avoir pour pas complètement les échapper.
Oui, bien c'est ça aussi. T'sais, on parlait de lien puis de sécurité, puis les itinérants avec les tentes et tout. Pour tout être humain, on a besoin de se rassembler, d'appartenir, d'être avec des gens qu'on voit tous les jours. Donc, des fois, d'être seul, on peut plus se ramasser dans une situation, c'est pas toujours les bonnes personnes, mais on a un besoin, comme être humain, comme animal social, d'être avec des gens.
Effectivement, puis on parle d'itinérance, là, on parle des tentes et tout ça. Nombre de personnes qui sont en situation d'itinérance nous le disent, si on recule, si on compare l'itinérance d'aujourd'hui, l'itinérance d'il y a 10 ans, admettons, c'est une itinérance où les personnes sont beaucoup plus seules, effectivement, et le sentiment de sécurité des personnes en situation d'itinérance, si on le compare en 10 ans, a énormément chuté, là. C'est ce que ces personnes-là nous disent, parce que justement, oui, elles se retrouvent plus seules, elles sont moins en groupe pour pouvoir se protéger ensemble.
Ouais.
La personne se fait voler régulièrement, se fait tabasser régulièrement, et tout ça. Ça, on le voit, on nous le nomme, puis on le constate avec les personnes qu'on rencontre. Fait que oui, c'est pas pour rien, dans notre mission, on parle de relations égalitaires et de comportement sécuritaire. Pour nous, c'est des concepts clés qui sont transversales à tout ce qu'on fait à l'anonyme.
Puis, on a parlé beaucoup de ces dernières années, là, de cette fameuse notion de consentement. Comment vous trouvez qu'elle est perçue chez les jeunes et les moins jeunes, peut-être?
ça fait énormément réagir partout. Je pense qu'il y a des... T'sais, c'est sûr qu'il y a des personnes qui viennent... T'sais, on leur dit ça, puis ça leur paraît évident. On pourrait avoir tendance à se dire que chez les jeunes, c'est encore plus évident. Puis chez peut-être des personnes, en faisant, assumons-nous, en faisant un peu d'âgisme, chez des personnes plus âgées qui ont peut-être vécu étant plus jeunes dans des sociétés, une société où la notion de consentement n'était peut-être pas la même, ou en tout cas, le concept n'était peut-être pas vécu de la même façon. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous disent, qui réagissent très fortement lorsque l'on parle de consentement. Tu sais, voyons donc, elle a dit oui, donc c'est correct, là, cette espèce de...
Je vais pas vérifier à chaque étape.
C'est ça, là, tu sais, là, c'est un peu long et tout ça. Ouais. Là, déjà dit, on est dans le feu de l'action. À un moment donné, là, tu peux plus dire non, là, on est déjà là. Mm. Je suis prêt, t'es prêt, voyons donc, pourquoi. Puis, donc, c'est quelque chose qui est... où il y a un travail énormément qu'il faut continuer à faire, dans le fond, sur la notion de consentement. On pense que c'est réglé parce que là, on en parle un peu plus et tout ça. Mais je pense qu'il faut continuer à tout le temps. Faut pas lâcher le morceau, finalement, parce que sinon, on se retrouve dans des situations où les gens se sont pas respectés, les gens sentent qu'ils ont... Ben, on se retrouve dans des situations d'agression. Et c'est ce qui arrive.
Oui, oui. Mm. Puis, on parle des jeunes, mais des moins jeunes aussi, parce qu'on était à une époque où la séduction, c'est comme, ben voyons, là... a fait son agace ou j'avais bu ou avec des gens plus âgés pour qui le consentement c'était pas quelque chose dont on parlait.
Non seulement on n'en parlait pas, mais en plus de ça, on était ça allait comme de soi un peu.
Mm.
Comme, ben,
malheureusement.
On est rendu là, malheureusement, certains. Mais d'ailleurs, on les offre encore avec un parcimonie parce qu'on n'a plus le financement pour ça. Mais on offrait des ateliers avec des personnes. On dit aîné, là. Faut s'entendre, mais... Donc, dans le fond, des personnes qui...
On dira
qui...
pas le chiffre.
Non, on dit pas le chiffre. Mais des personnes qui, de manière générale, on se dit que, ces personnes-là ont probablement plus de vie sexuelle ou parce qu'ils sont rendus à un certain âge et donc, à ce moment-là,
préjugé
ça n'existe plus.
Préjugé que,
Préjugé qui est fort, et ce préjugé-là est très fort, pas juste avec tout le monde. On en parlait avec des médecins qui nous disent, tu sais, qu'une personne... Une personne aînée, une personne de 70 ans, mais donc qui vient le voir puis qui a des enjeux, des symptômes X, mais cette personne-là, jamais on va aller voir si c'est une TSS.
On s'attend pas à, on passe à côté.
On vérifie toutes sortes de choses, on passe à côté du fait que c'est une TSS, et à ce moment-là, la personne se retrouve. Donc ça, on en a eu plusieurs exemples
Julien,
comme ça.
Julien, faudra vous réinviter. c'est passionnant comme discussion. Malheureusement, notre épisode se termine. Alors, Julien Montreuil, l'anonyme. Je tiens à remercier notre dynamique équipe, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Tous nos épisodes sont disponibles sur les plateformes de balado-diffusion, canalm.vusezvoix.com. Ici Chantal Doré, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres rencontres avec des héros anonymes qui ne seront moins. Merci!